RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel Ma Langue. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La Suède s'attend à une valeur croissante avec l'Indonésie. Le président Jokowi invite le Moyen-Orient à investir en Indonésie. La coopération Indonésie-Brunei sur le placement des travailleurs migrants. L'Indonésie soutient l'adoption d'amendements à la Convention sur les travailleurs maritimes et enfants. Le gouvernement doit optimiser les chantiers navals nationaux. Voici le journal complet. L'ambassadeur suédois en Indonésie, Johanna Brismarskog, a déclaré mercredi à Jakarta que l'Indonésie et la Suède pouvaient intensifier la coopération bilatérale de ces deux pays dans le domaine commercial. Elle a déclaré que sa partie avec ses collègues et l'ambassade indonésie à Stockholm continue à encourager des efforts pour introduire le potentiel du développement d'une coopération aux gens et aux hommes d'affaires de deux pays. Comme indiqué, la valeur des échanges entre l'Indonésie et la Suède a atteint 744 millions de dollars américains en 2017, une augmentation par rapport à l'année précédente qui a atteint 670 millions de dollars américains.
I would hope that the increasing
J'espère que le commerce entre nos deux pays augmentera grâce aux efforts que nous avons faits ici à l'ambassade. Mon collègue et l'ambassade indonésienne à Stockholm font la promotion des relations bilatérales entre nos pays. Et je pense aussi du côté des hommes d'affaires suédois, ils voient l'Indonésie de plus en plus comme un marché intéressant, non seulement en raison de sa taille, mais aussi en raison de sa démocratie, car elle a une croissance régulière, et très bonne ministre des Finances et une banque d'Indonésie qui sont capables et accomplis bien le pays. Donc, c'est un pays intéressant à regarder de ce point de vue. En outre, l'ambassadeur Johanna Brismarskog de la Suède a déclaré que l'Indonésie et la Suède avaient parvenu à une relation bilatérale équitable. Certains secteurs de coopération qui sont actuellement à l'attention de deux pays sont dans les domaines de transport et de transfert de technologie. Selon Johanna, en plus de contribuer au programme de développement indonésien, la Suède est prête de s'ouvrir pour les investisseurs indonésiens qui voulaient entrer sur le marché suédois. Le président Joko Widodo, devant des centaines d'ulémas, a déclaré que le gouvernement invitait des pays du Moyen-Orient à investir en Indonésie. Les pays du Moyen-Orient sont des pays riches. Ils investissent massivement en Amérique et en Europe. Pourquoi pas en Indonésie? Il a été dit par le président Joko Widodo lors d'une visite aux Ulémas à Pondok Pesantren Ashidikiyah 3 Cilamaya Kulon, la résidence de Karawang, Java West, mercredi. Selon le président, pourquoi les pays du Moyen-Orient n'investissent pas en Indonésie? Parce que l'Indonésie n'a pas visité la région des pays du Moyen-Orient. Le président a admis qu'il avait ordonné à ses ministres de rester en contact avec les pays du Moyen-Orient au moins tous les 3 mois. Il devait se rendre au Moyen-Orient et en Asie du Sud. En conséquence, plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Asie du Sud ont émis des milliers de milliards de roupias. Par exemple, les raffineries à Cilacap en coopération avec l'Arabie Saoudite, puis à Kalimantan avec le Qatar et l'Oman. L'investissement des Émirats Arabes Unis à Kuala Tanjung. Le président Joko Widodo estime que l'Indonésie deviendra le pays ayant la plus grande croissance économique du monde. Avec une bonne stabilité politique, le développement continuera. L'Indonésie et le Brunei ont convenu de renouveler immédiatement le mémorandum d'accord lié au placement des travailleurs migrants indonésiens au Brunei. L'accord des deux pays a été transmis lors de la réunion bilatérale en marge du forum de l'OIT à Genève, en Suisse, mardi. La réunion était en suivi de la réunion du président indonésien Joko Widodo avec Sultan Hassanal Bolkiah de Brunei, représenté par le ministre indonésien de la Main de Fre, Hanif Dakiri, et le ministre des Affaires intérieures de Brunei, Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong. Selon le ministre Awang, la présence des milliers de travailleurs migrants indonésiens au Brunei contribue grandement à la durabilité économique du Brunei. Hanif a salué l'engagement du Brunei. Le ministre Hanif a dit que l'Indonésie avait une nouvelle loi concernant les travailleurs migrants qui ont dit que le placement des travailleurs migrants indonésiens dans le pays devrait être basé sur le protocole d'accord. À cette occasion, le ministre de la Main d'œuvre a également apprécié le gouvernement de Brunei lié à la relation d'emploi avec les travailleurs migrants indonésiens qui est relativement favorable. Sur la base de cette demande, Haji Awang a également déclaré que le Brunei avait une nouvelle réglementation sur la sécurité sociale pour les travailleurs migrants. L'Indonésie appuie la ratification de l'amendement à la Convention du travail maritime MLC qui réglemente la garantie des droits financiers des matelots qui sont victimes d'otages de pirates ou le vol en mer. Cela a été dit par le ministre du Travail, Hanif Dakiri. Après le processus de vote de la ratification de l'amendement de MLC qui a lieu en marge de la Conférence internationale du travail, ILC, à Genève, en Suisse, par le biais d'un communiqué de presse à Antara mardi. Il a déclaré qu'à travers l'amendement de MLC, le contrat de travail entre les matelots et les armateurs n'arrêtait pas ou ne peut pas être arrêté quand les matelots sont pris en otage par les pirates. Ainsi, les salaires et les autres droits qui ont été fixés dans le contrat de travail restent payés. L'ambassadeur, représentant permanent auprès de l'ONU, l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, Hassan Klef, a expliqué: l'amendement de MLC était proposé par un groupe de matelots et les résultats des négociations des représentants des pays qui ont ratifié MLC, y compris l'Indonésie, avec les représentants du groupe des matelots et des armateurs appartenant aux communautés tripartites spéciales HTC qui a lieu à l'OIT à Genève, la Suisse, du 23 au 27 avril 2018. Le gouvernement doit plus optimiser la performance de l'industrie du chantier naval national comme l'un des efforts pour augmenter le secteur maritime en harmonie avec le concept de l'axe maritime mondial lancé par le président Joko Widodo. Le président de l'Association des Affaires Marins Indonésiens, ISKINDO, Muhammad Asuhufan, a déclaré mercredi à Jakarta que ISKINDO avait suggéré au président de réexaminer la politique sur les droits de douane des composants des navires. Selon lui, l'étape de la réexamination des droits d'importation des composants des navires à l'avenir peut encourager l'efficacité des cours de construction navale dans le pays. De plus, maintenant, l'industrie de chantier naval national a un travail dur à faire pour être plus efficace. Il a dit que l'industrie du chantier naval était un type d'affaires qui a beaucoup de capitaux et de risques élevés. 70% des composants des navires sont encore importés actuellement. À cette fin, le gouvernement continue également de fournir un soutien, entre autres, sous la forme d'une politique de relance budgétaire, de la facilité d'octroi de licence, jusqu'à l'étape de la commande des navires de manière durable. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Secrétaire, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Contre le radicalisme par l'éducation ». Le terrorisme et la violence se produisent souvent partout, y compris en Indonésie, à la fois au nom de la pauvreté, du social, de l'ethnicité, de la tribu à la religion. L'Indonésie est en train de construire une civilisation à travers une dimension religieuse basée sur l'éducation islamique modérée pour contrer le radicalisme et la violence. Se référant à la construction d'un islam plein de tolérance et modéré contre violent, le gouvernement de l'Indonésie a construit l'Université islamique internationale d'Indonésie, ou IIII. Le développement de l'IIII a été inauguré par le lancement de la réglementation présidentielle numéro 57 en 2016 sur la création de l'Université islamique internationale de l'Indonésie. Le président Joko Widodo, lors de la pose de la première pierre de la construction du campus du IIII au complexe RRI Cimanggis d'Epok Java West, mardi, le 5 juin, a déclaré « La construction du campus du IIII a des idées qui pourraient vraiment être un centre d'études et de recherche de la civilisation islam. Comme nous, l'Indonésie est un pays qui a le plus grand nombre de musulmans dans le monde. » La construction du campus du IIII, selon le président, était prévue il y a des ans avec le gouvernement, avec le coût de 3,5 trillions rupiah, et la construction a été inscrite comme l'un des projets stratégiques nationaux. Pendant ce temps, le ministre des Affaires religieuses, Lukman Hakim Saifuddin, espère, avec la mise en place du IIII, l'intolérance qui se produit partout diminuera, y compris dans la société indonésienne. Le ministre Lukman Hakim a dit que les étudiants qui étudient dans IIII profonderont les valeurs d'islam, en particulier en évaluant et en développant l'étude de l'islam. Grâce à ces études, il espère que l'islam peut être mieux compris conformément à l'essence et la substance qui peut être humanisante. Il espère également que la création d'IIII peut contribuer positivement à l'Indonésie en participant à l'organisation de la civilisation mondiale. Le professeur de l'Université islamique d'État, Sharif Hidayatullah, Jakarta, Asef Usman Ismail, a déclaré que l'Indonésie était l'objet fertile de la propagation des racines du radicalisme exhalées de l'étranger. Ainsi, le renforcement des institutions éducatives pour contrer le radicalisme comprend trois choses, à savoir la famille, l'école et la communauté. Selon lui, les établissements d'enseignement ne sont pas seulement l'éducation formelle, comme les établissements d'enseignement, mais aussi l'éducation non formelle. En effet, avec la capacité de la raison humaine, nous pouvons distinguer le bien et le vrai en nous appuyant sur des valeurs culturelles, de l'éthique et de la civilisation qui sont déboutées d'une famille. Alors, si quelqu'un subit un faible niveau d'éducation, il sera difficile de comprendre ou d'interpréter un enseignement. Par conséquent, l'intention de la création de l'Université islamique internationale d'Indonésie par le gouvernement d'imprimer des diplômés modérés dans les perspectives et la réflexion sur l'islam devrait être appréciée. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Thank you.
les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, n'importe où que vous soyez, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 7 juin. Nous allons commencer par le 7 juin 1993. La Commission nationale des droits de l'homme a été inaugurée en Indonésie. La Commission nationale des droits de l'homme est une institution indépendante en Indonésie dont le statut est égal à celui des autres institutions étatiques qui servent à mener des études, la protection, la recherche, le conseil, la surveillance, l'investigation et la médiation aux questions des droits de l'homme. Le 7 juin 1993, le président de la République d'Indonésie en cette époque, Suharto, par décret présidentiel numéro 50 de 1993, a créé la Commission nationale des droits de l'homme, ou Komnas HAM, et en même temps, il a nommé le président de la Cour suprême à la retraite, Ali Said, pour rédiger la commission et sélectionner ses membres. Cette décision présidentielle fait suite à la recommandation de l'atelier sur les droits de l'homme lancé par le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie et l'Organisation Nations Unies a eu lieu à Jakarta le 22 janvier 1991. Puis, le 7 juin 1999, l'Indonésie a organisé des élections générales démocratiques et pacifiques. Des élections générales ont simultanément eu lieu pour élire les membres du Parlement et les membres du Parlement de la province ainsi que Parlement de la ville ou du district pendant la période 1999 à 2004. C'était la première élection générale tenue après la chute du Nouvel Ordre et la dernière a été suivie par la province du Timor-Timor. Les élections générales sont participées par 48 partis politiques et menées proportionnellement en fonction du pourcentage des votes nationaux. Sur les 462 sièges contestés, le parti de PDIP, Partai Démocratie Indonesia Perjuangan, a remporté le plus de sièges avec 153 sièges des deux autres grands partis, le parti de Golkar, Partai Golongan Karya, avec 120 sièges, et le parti de PPP, Partai Persatuan Pembangunan, avec 58 sièges. Pour le monde entier, l'élection de 1999 était un événement important. Même, les élections générales démocratiques sont au-delà des attentes de la communauté mondiale parce qu'elles peuvent se dérouler pacifiquement. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec le 7 juin 2001, la signature de la charte de la formation du GUAM, l'association Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldavie. Le GUAM est une organisation pour la démocratie et le développement économique des quatre anciens pays soviétiques, à savoir la Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Moldavie. La charte de GUAM a été signée le 7 juin 2001 lors d'une réunion de Yalta du 6 juin au 7 juin 2001 par quatre membres et l'Ouzbékistan qui est ensuite parti. Selon le président ukrainien Viktor Yushchenko, cette charte a fixé le but de la coopération comme la valeur de la démocratie, la garantie d'un développement stable, la promotion de la sécurité internationale et régionale et l'aide à l'intégration européenne. Voilà l'histoire d'aujourd'hui de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie depuis Jakarta.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée Sehat Sagli, le système de rapport sur la santé de la faune. Dans le but d'optimiser la prévention de la maladie zoonotique provenant de la faune, le ministère de l'Environnement et des Forêts a lancé le système de rapport sur la santé de la faune au Sehat Sagli à Jakarta mercredi. Sehat Sagli est un système de rapport basé sur le web sur les incidents de la faune causés par le braconnage, les accidents ou sur les maladies zoonotiques provenant d'animaux sauvages. Les maladies zooniques sont des maladies et des infections qui peuvent naturellement être transmises aux animaux vertébrés, aux humains et vice-versa. Le directeur de la conservation de la biodiversité, ministère de l'Environnement et des Forêts, M. Bambang Dahono Aji, qui représente le directeur général de la conservation des ressources naturelles et des écosystèmes, a déclaré que Sehat Sagli est une étape réelle dans la gestion des zoonoses et des maladies infectieuses émergentes qui viennent sur la faune. Bambang Dahono Aji a déclaré que Sehat Sagli est l'engagement du ministère KLHK pour soutenir le développement des capacités techniques et les agents sur le terrain afin de prévenir et contrôler zoonotiques et PIE ciblés avec l'approche One Health. Par le contrôle conjoint entre la santé humaine, la santé animale et la santé de la faune. One Health est une unité de politique, de stratégie et de programme dans le traitement des maladies zoonotiques chez les animaux, la faune, la santé publique et la santé environnementale. Selon Bambang, à plusieurs zoos en Indonésie, il y a la consanguinité. Ainsi, on a besoin des rapports rapides sur l'indication des maladies animales via Sehat Sagli pour la formulation de politiques, l'établissement des stratégies et le programme de la gestion. Le système d'information sur le rapport Sehat Sagli sert le système d'alerte précoce pour la prévention et le contrôle de la propagation de la maladie et aussi la prise de décision rapide et précise basée sur des données. Sehat Sagli a été testé dans trois provinces, telles que Riau, Java West et Kalimantan West. À l'avenir, sera mis en œuvre au niveau national progressivement à toutes les unités de l'application technique de la conservation des ressources naturelles et des écosystèmes et de l'Institut de conservation. La construction de ce système est soutenue par le Centre d'urgence de la FAO pour les maladies animales transfrontalières en Indonésie. Bambang souhaite que le web doive bien fonctionner et faire partie du système de rapport sur la santé intégrée au niveau national avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture, de sorte que la prévention et le contrôle des zoonoses et les maladies infectieuses émergentes de la faune peuvent être réalisées. Chers amis, c'était la rubrique Modernisie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Chers auditeurs, voici donc le rappel de titre de l'actualité.
La Suède s'attend à une valeur croissante avec l'Indonésie. Le président Jokowi invite le Moyen-Orient à investir en Indonésie. La coopération Indonésie-Brunei sur le placement des travailleurs migrants. L'Indonésie soutient l'adoption d'amendements à la Convention sur les travailleurs maritimes. Et enfin, le gouvernement doit optimiser les chantiers navals nationaux.
C'était le rappel des titres de l'actualité pour ce soir.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Magazine Culturel. Intitulé Baponka, tradition de la pêche maritime de tribu Bajo qui apprécie la nature. Bajo est une ethnie inséparable de la mer. Le modèle de logement de la communauté de Bajo est très unique. Sa maison était principalement sur les eaux. Même au passé, elle résidait dans des bateaux ou lepa. Maintenant, les Bajo se sont répandus dans toute l'archipel, notamment à Sulawesi. Il y a une tradition de pêche qu'ils font habituellement, ce qui les oblige à parcourir de longues distances. C'est la tradition de Baponka. Baponka est une tradition de la société de Bajo, qui utilise un équipement traditionnel et protège l'environnement marin des dommages. Baponka est navigué pour vivre dans une autre zone pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois. Ils sont partis en mer en groupe. Chaque groupe se compose de 3 jusqu'à 5 bateaux. Chaque bateau possède une personne. La formation de petits groupes de Baponka est plus souvent basée sur la proximité. D'habitude, le petit groupe se réunira avec d'autres petits groupes dans un lieu de pêche et éventuellement former un groupe qui peut atteindre 15 ou même 20 bateaux. Les bateaux traditionnels qu'ils utilisent sont appelés lepa, qui disposent d'un outrigé et d'un toit en feuilles de sagou. D'habitude, les bateaux sont équipés des rames, bien qu'aujourd'hui il y ait plusieurs bateaux équipés d'une machine de katinting. Au moment de Baponka, ils apportaient beaucoup de nourriture comme le sagou et accessoires, comme des lampes à pétrole, des récipients des eaux, des ustensiles de cuisine, l'équipement de couchage et des accessoires pour les holoturi et autres produits marins. Baponka possède un bon impact sur la conservation marine, notamment le récif corallien, parce qu'ils n'utilisent que des équipements simples. Dans la tradition de Baponka, il y a des tabous auxquels l'ethnie Bajo doit obéir. On pense que l'abstinence pour les Bajo affecte les prises, comme par exemple pour ne pas jeter quelque chose en mer en faisant Baponka. Il est interdit de jeter les eaux de lavage de riz, de charbon de bois, du marc de café, des œufs de chili, des œufs de gingembre, de l'écorce d'orange, des cendres de cuisine dans la mer. Au moment du lavage de riz, les œufs ont été lavés dans le bateau et sera jeté après avoir approché le continent. De même avec le charbon de bois utilisé, le cendre de la cuisine, la peau d'orange, les œufs de piment
et les œufs de gingembre. L'abstinence à faire ne doit pas être violée parce qu'on pense qu'il y aura un désastre, parce qu'on croit qu'il y a des dirigeants de la mer sous la forme d'esprit nommé Mbo. Ces choses font que la tradition Bapunka apprécie hautement et préserve la nature comme une sagesse locale de la société de Bajo. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir, intitulé Bapunka, la tradition de la pêche maritime de tribu de Bajo qui apprécie la nature. Merci à tous et au revoir.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La Voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Malangue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Malangue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province de Java-Ouest afin de connaître de diverses choses sur la langue sundanaise. Certains Indonésiens nommeront la langue sundanaise lorsqu'on leur demandera de nommer les langues locales en Indonésie. Cela montre que la langue sundanaise est facilement reconnue. En outre, il y a beaucoup de peuples sundanais qui ont migré vers diverses régions. Cependant, la langue sundanaise subit déjà des menaces de la périphérie de Java-Ouest. Comme indiqué Dr. Andra Sutejo, le chef du bureau de la langue de la province de Java-Ouest. Surtout en peu de bordure, l'exemple est dans la région Bojonggede, Bogor, la région Bekasi, est un contenu local de la langue sundanaise. Mais la langue sundanaise n'a jamais été utilisée comme un moyen de communication dans leur environnement. Eh bien, c'est un contraire. Dr. Andra Sutejo a ajouté l'érosion de la langue sundanaise à Java-Ouest se produit également parce que le processus de régénération est inhibé. Et en effet, cela contraint la personne éduquée, par exemple le fonctionnaire dont le père et la mère sont licenciés. Le principal outil de communication utilisé n'est pas le sundanais. Parfois, ils utilisent indonésien. C'est une contrainte pour la préservation du sundanais. À Java aussi, l'enseignant moyen, lorsqu'il avait des enfants, avait sa communication initiale en utilisant la langue indonésienne et pas la langue locale. Chers amis, voici quelques exemples de la langue sundanaise. Wilujeng Enjing, en français, bonjour. Wilujeng Berang, en français, bon après-midi. Kumaha Damang, en français, comment ça va? Hatur Nuhun, en français, merci. Chers amis, si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voy@voynews.id. Je répète, voy@voynews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voyindonesia. Chers amis, c'était le programme Ma langue comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Merci à tous et à la semaine prochaine.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteurs. Nous continuons notre programme avec le magazine musical. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons les chansons religieuses. Bon, serviteurs, pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson intitulée « La grandeur de Dieu » chantée par Rita Effendi. Bonne écoute.
Dengan tiada
Serviteur, c'était la chanson intitulée La grandeur de Dieu de Rita Effendi, composée par A. Malik Bouzaïd. Cette chanson avait popularisé avec une chanteuse senior, Ida Laila. La chanson, lancée en 1964, a été succès à ce moment-là. Jusqu'à présent, il y a environ 40 musiciens indonésiens qui ont recyclé cette chanson, tels que Deloitte, Titi Sandora, Ike Nurjana, Vidi Aldiano, Iis Dahlia, etc. La chanson intitulée La grandeur de Dieu invite les auditeurs à se repentir et continuer à faire de bonnes actions avant la mort. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson recyclée suivante intitulée Dieu. Bonne écoute. Serviteur, vous venez d'écouter la chanson de Rafika Duri intitulée Dio, qui a composé et avait popularisé par le groupe musical Bimbo. Il y a beaucoup de musiciens indonésiens qui avaient recyclé cette chanson, comme le groupe musical Gigi. Les paroles de cette chanson créées par Taufik Ismail, un poète et un écrivain de l'Indonésie. Cette chanson nous rappelle de nous rapprocher de Dieu, alors Dieu se sentira proche. Bon, serviteur, voici la chanson de Memes intitulée Ku Bersimpuh. Bonne écoute.
di rumahmu ku bersimpuh, terluluhkan segala dayaku. Yakini keagunganmu, ku berdoa sepenuh jiwa. Malam itu tak tertahan, tangisanku yang penuh sesal, tak mampunya ku berubah untuk menjadi yang kau damba. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu. Air mata basuhi jiwa, inikah awal kesucian. Tuhan, terangi jalanku dengan cahaya sinar matamu. Oh Tuhan, ku datang tuh menghadapmu, ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata untuk menghadapmu. Ampuni kehilafanku selama ini. Oh Tuhan, bukalah mata batinku untuk mengerti petunjuk dan bimbinganmu.
Seri Talk setelah Sangsong de Memes ang titulé Ku Bersimpuh kia dang album religieux de compilation ang titulé Harmony de Victoire lancé en 2011. Toutes Sangsong dans cet album sont composées par Arif Satria. Bon Seri Talk avant de terminer le programme et que tong donc maintenant la Sangsong de Krisdayanti ang titulé Doaku Harapanku. Bon écoute et à demain.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 9525 kHz par le site www.voinews.id/FRENCH ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.